dernière fois, je vous ai rappelé comment le problème de la matière était le problème sur lequel s'était heurtée la philosophie de Platon. Je dirais, c'est là où on saisit la limite de la philosophie de Platon. La matière étant le non-être, étant ce qui est en dehors de l'intelligibilité, ce qui donc montre la limite de notre recherche philosophique. C'est comme l'abîme. Et si je prends l'abîme premier d'Hésiode, c'est comme l'abîme devant lequel on se trouve, un abîme dans lequel on n'entre pas, puisqu'on ne peut pas y entrer, c'est du non-être. Même si chez Platon, il y a de fait, à travers sa philosophie, et je crois sous l'influence d'Aristote, un essai progressif de voir l'importance de la sensation. C'est une des manières d'entrer dans le platonisme, de voir comment la sensation qui au point de départ est rejetée prend de fait une place toujours plus grande. Mais je ne crois pas que Platon, même en intégrant de plus en plus sa sensation, a pu intégrer la matière dans sa philosophie. Elle est restée en dehors, jusqu'au bout. Parce qu'avec le Timée, on pourrait dire que là, il y a déjà une certaine recherche de comprendre comment la matière réceptacle pourrait être intégrée. C'est un essai, mais c'est très difficile à bien préciser. Cette matière réceptacle des formes. Ce qui est sûr, c'est qu'avec Aristote, sa philosophie commençant par le problème de l'expérience du mouvement, Aristote faisant tout de suite confiance aux sensations. Dans la philosophie d'Aristote, la matière sera tout de suite intégrée. Et ça, je crois, dès le point de départ, on n'a aucun texte. Et si on en avait un, je crois qu'on le mettrait très en lumière, qui nous permette de dire qu'Aristote ait affirmé que la matière était du non-être. D'affirmer par le fait même que là, il était naturalité avec Platon. Aristote n'a jamais pris la position de Platon par rapport aux formes en soi. Et donc, dès le point de départ, il y a intégration de la matière dans sa philosophie. Et je crois que c'est l'aspect fondamental de la philosophie d'Aristote. Ce n'est pas le sommet, c'est bien évident. Puisque le sommet, ce sera d'essayer de nous faire comprendre comment le nous est séparé. C'est très curieux de voir ça, du reste, hein, parce que c'est les deux extrêmes de la philosophie d'Aristote. Je crois que si on ne comprend pas ces deux extrêmes, on ne saisit pas la philosophie d'Aristote. Le point de départ, intégré le problème de la matière, malgré Platon, face à Platon, et d'autre part, rejoignant Platon et le Parménide dans le point de vue de la recherche du nous séparé. Et ce qu'il nous dit, par exemple, dans le livre Lambda de la métaphysique, puisque le nous séparer va nous permettre de découvrir parfaitement ce qu'est l'être premier. Le nous séparer va permettre l'élaboration de cette philosophie première, la recherche de ce qui est en tant qu'être, qui ne peut se faire que grâce au nous séparer. Ce nous séparer étant affirmé dans le De Anima. Il ne faut pas dire que c'est par la pensée qu'il découvre l'être premier. Vous voyez la petite tentation. Si je fais ce petit j'aime très rapide, mais je crois être vrai, l'expérience du mouvement permet une philosophie, une physique, ce que nous allons voir tout de suite. Ensuite, le nous séparé va permettre à Aristote de pouvoir poser la philosophie première et préciser le sommet de toute la pensée philosophique qui est le point de vue du nous, de la pensée de la pensée. Noésis, Noéséos. Donc, je crois que si fondement la découverte du nous séparé, où il rejoint Anaxagore, il y a tout un lien avec Anaxagore qui est très très net, puisque c'est le nous qu'Anaxagore a mis en lumière. Et là, Aristote rejoint toute la grande philosophie d'Anaxagore. Le nous séparé, c'est quand même lui. Le premier a eu ce sens du nous séparer. Ce nous séparer permet l'élaboration de la philosophie première, qui, elle, aboutit au terme métaphysique lambda, la pensée de la pensée, qui fonde la contemplation. Puisque la philosophie d'Aristote se terminera dans l'éthique, livre 10, la contemplation. Et la contemplation, c'est la contemplation de la pensée de la pensée. Puisque, de fait, la contemplation nous met en proximité avec l'être premier et fait que nous développons ce que Dieu aime le plus en nous. Notre nous. Je crois qu'on peut faire ce petit cheminement, vous voyez. Donc les deux extrêmes, l'expérience, la contemplation. C'est les deux extrêmes de toute la philosophie d'Aristote. L'extrême objectif, livre lambda. L'extrême par rapport à l'homme, au philosophe, le livre. Le livre 10 de l'éthique. Et ce qui est le métaxu qui permet de faire ça, c'est la vision du nous séparer. Je crois que nous pouvons dire ça. C'est pour ça que c'est si important de bien voir la physique. Oui, je ne dis pas que c'est la physique qui fait comprendre la philosophie première, hein. Contrairement à ce qu'on peut dire, ce que certains disent aujourd'hui, que c'est la physique qui fait comprendre la philosophie première. Je ne crois pas du tout. Puisque c'est l'expérience, il y a donc une seconde expérience ici, et une troisième expérience. Vous voyez bien, c'est pas du tout, on ne conclut pas de la physique le passage du De Anima et le passage de la métaphysique. Ici, le De Anima. Puisque le De Anima conclut le nous séparer. C'est dans le De Anima qu'il voit le nous séparer. Et le nous séparer justifie en dernier lieu, position critique, la philosophie première. Mais le point de départ de la philosophie première, c'est l'expérience. Le point de départ du De Anima, c'est l'expérience. Et le point de départ de la physique, c'est l'expérience. trois expériences types qui justifient ces développements philosophiques de la philosophie spéculative. Puisque ici, on est en présence de la philosophie spéculative. Et il y a une harmonie très grande entre ces trois aspects. Vous voyez, ce n'est pas du tout une démarche dialectique. On passerait de la physique au dianima, à la philosophie première. Je dis ça, c'est parce que certains le conçoivent comme ça. Le père Geiger le concevait comme ça. De son vivant, je ne pouvais pas trop le dire, mais maintenant qu'il est dans le ciel, je peux le dire. C'était comme ça qu'il concevait, parce que c'était l'expérience de nous séparer qui permettait la philosophie première. Alors, je dis non, c'est pas la découverte de nous séparer qui est l'expérience de la philosophie première, parce que si on disait ça, vous voyez bien que la métaphysique commencerait par la pensée. Ce serait donc Descartes. Et c'était ça qui était toujours la pierre d'achoppement entre deux conceptions de la métaphysique. Et c'est très intéressant de voir ce petit schéma, c'est pour ça que je vous le donne tout de suite, parce que si on étudie le mouvement, c'est intéressant de bien comprendre. Aristote le dit, vous voyez, si Aristote mettait comme métaxu pour la philosophie première la découverte de nous séparer, il dirait que c'est l'expérience interne qui commande la métaphysique. Ça, c'est Plotin. Et derrière, Plotin, le néoplatonisme, en dernier lieu, Descartes. Oui. Quand Aristote, au début des métaphysiques, rappelle que le point de départ de la philosophie, c'est l'expérience, il y a donc nécessairement trois expériences types qui commandent ces trois grands développements de la philosophie spéculative. Qu'il y ait des liens entre eux, c'est bien évident. Il y a des liens entre eux. Oui, la physique va se terminer dans la recherche du premier Bovins. Ben, nous verrons. Si nous avons le temps, c'est quand même intéressant. On part du mouvement le plus général au premier mouvement. Premier Bovins, ça c'est la physique. Donc, la physique termine. Elle termine bien au nous séparer. Pas explicitement, mais implicitement, le premier mouvement. Le premier Bovins. Le dianima se termine au nous séparer et à l'intellect agent. Qui est l'acte du nous séparer. Et la métaphysique se termine à la pensée de la pensée. Et l'éthique, alors, en philosophie pratique. En philosophie pratique. L'éthique se termine à la contemplation. Donc, il y a un lien organique extrêmement fort dans ces différentes parties de la philosophie. Ce sont les sommets. Il faut toujours voir le point de départ. Puisque voir les sommets sans voir le point de départ, ce n'est plus philosophique. Je prends les conclusions. Très bien de voir les trois grandes conclusions d'Aristote, les quatre grandes conclusions d'Aristote. C'est très intéressant de voir ces quatre grandes conclusions, mais si je ne vois pas comment il y arrive, c'est pas de la philosophie. C'est tout simplement additionner les conclusions. Donc vous voyez comment je crois, du moins personnellement, c'est comme ça que je le fais. J'entre dans Aristote. En voyant le point de départ et puis essayer de voir le terme. Alors on va faire ça pour la philosophie première, puisqu'on n'a jamais eu l'occasion de le faire. À Fribourg, je le faisais régulièrement, puisque le programme était sur Aristote, et donc on avait la possibilité de consacrer toute une année sur Aristote. Ici, je ne l'ai pas encore fait. Alors, nous allons, si vous voulez, entrer rapidement une lecture pour être sûr que vous lisiez et puis vous noterez tout ce que vous ne comprenez pas. Une lecture, pas de toute la physique, hein, c'est impossible, mais au moins du premier livre. Le premier livre, c'est un livre critique. Donc, Aristote se trouve devant Platon, qui nie la philosophie de la nature. Il n'y a pas de philosophie de la nature pour Platon. Il faut donc justifier qu'il peut exister une philosophie de la nature, ce qui n'est pas si commode. Justifier qu'il y a un principe propre de la philosophie de la nature. Et pour ça, je crois que le livre premier, c'est vraiment un livre critique. Et nous entrons proprement dans la philosophie de la nature avec le livre 2. Alors c'est avec le livre 2 qu'on essaiera de comprendre la structure de la physique, de la philosophie de la nature. Je vois d'abord avec vous donc le livre premier, en voyant cette étude réflexive, pour voir, y a-t-il possibilité de trouver dans le monde physique, dans le monde du mouvement, une certaine intelligibilité propre. Vous voyez, il y a le Pandareï d'Héraclite que Platon a repris. Et le Pandareï, vous voyez ce que ça veut dire, hein? C'est une drôle de bête. C'est que tout coule. Pandareï, vous ne pouvez pas descendre deux fois dans le même fleuve. Vous ne pouvez pas recevoir deux fois la même eau de la douche. Impossible. C'est toujours une eau nouvelle. Ça coule. C'est ça le mouvement. Que cette eau soit canalisée, où qu'elle soit, dans le torrent. C'est à l'eau vive. On a toujours une image. L'eau vive du père de Monténard. À l'eau vive du père de Monténard, on a une image merveilleuse d'une patte d'oreille. Quand on passe sur le petit torrent. Je pense chaque fois à Héraclite. Il faudrait mettre une statue d'Héraclite là, et puis en mettant pas de taille. Alors tous, ils deviendraient progressivement philosophes. Ça coule. C'est ça. Cette espèce d'expérience. Vous mettez vos pieds dans l'eau d'un torrent. Ils sont arrosés, puis ça coule. C'est du reste très agréable. C'est agréable que c'est jamais une eau. Vous voyez, l'eau stable, pourrie. On sait, il y a des poissons qui sont très sensibles à ça, qui ne peuvent pas vivre dans l'eau douce. Il faut que ça passe tout le temps. Ça fait une chair de poisson particulièrement bonne. C'est parce qu'ils ont le sens du Pandareï. Alors, Pandareï, Aristote l'accepte, mais malgré ça, il va trouver une stabilité. Il faut comprendre ce contexte. Le Pandareï d'Héraclite justifie pas de principe, puisque tout coule, pas la peine de chercher, c'est une contingence absolue. Et Aristote, au contraire, va essayer de préciser. Alors, je commence cette lecture, une traduction qui n'est pas très très bonne. J'en avais une autre, mais depuis le départ de Fribourg, je ne sais plus où sont mes... J'avais essayé de faire une bonne traduction de la physique, parce que c'est quand même intéressant. Des premiers livres de la physique. Connaissance et science se produisant dans tous les ordres de recherche dont il y a principe ou cause ou élément. Quand on a pénétré ces principes, cause ou élément, en effet, nous ne pensons avoir saisi une chose que lorsque nous avons pénétré les causes premières, les principes premiers jusqu'aux éléments. Il est donc clair que dans la science de la nature, il faut s'efforcer de définir d'abord ce qui concerne les principes. Rappel de la grande vision d'Aristote, des analytiques. Il n'y a de connaissance parfaite, de science parfaite, que quand on a découvert les principes, les causes ou les éléments. Bon, alors je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas du tout Aristote, vous le connaissez quand même tous un peu, ces trois, Arcaïe, Aïsia, Stoïcaïon. C'est quand même très intéressant. Il ne dit jamais ça en métaphysique, hein. Les éléments métaphysiques, hein, cherchez-les. Tandis qu'il dit en physique. Donc, vous avez ces trois aspects. Recherche des principes. Recherche des causes. Recherche des éléments. Il ne peut pas y avoir de philosophie de la nature sans avoir découvert ces trois. Toute la structure de la philosophie de la nature repose sur les trois principes, causes, éléments. Et il y a un lien entre les trois. Et en même temps, c'est très très différent. Alors, je vous rappelle en quelques mots ce que ça signifie. Pour Aristote, il n'y a de connaissance parfaite que quand on connaît les principes, les causes et les éléments, quand il s'agit de notre monde physique. Autrement dit, Aristote demande tout de suite que la connaissance parfaite n'est pas une description de nos expériences, que la connaissance parfaite implique une analyse, parce que c'est par l'analyse que nous découvrons les principes, les causes et les éléments. Au moins les principes et les causes. Le principe, qu'est-ce que c'est? Le principe, c'est ce qu'il y a de premier, tout simplement. Ce au-delà de quoi vous ne pouvez pas aller. Vous voyez, vous ne pouvez pas définir. Ça ne se définit pas, un principe. Ça ne se décrit pas. Ça se saisit. Alors soyez intelligents. Il faut comprendre le principe par lui-même et non pas par un autre. Parce que c'est le propre du principe de s'imposer à nous. Parce qu'il est premier. Le principe, c'est ce qui est premier. Ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. Donc tout principe est indivisible. La division s'arrête au principe. Vous ne pouvez plus analyser. Il faut faire cette petite expérience. L'infiniment petit. Ça c'est très très quantitatif, mais ça fait rien, c'est quand même l'infiniment petit qu'on ne peut plus diviser. On trouve un principe, donc c'est quelque chose devant lequel notre intelligence s'arrête. On le saisit ou on ne le saisit pas. Si on ne le saisit pas, c'est une borne, c'est un mur, plus analysé. Si vous le saisissez, ah, ça éclaire tout le reste. Tout ce qui vient après. Le principe a donc cette qualité particulière de porter en lui-même sa propre intelligibilité. La cause est toujours un principe. Mais les principes ne sont pas toujours causes. La cause, c'est le principe dans l'ordre du devenir. Ou dans l'ordre de ce qui est. Tout de suite, Aristote va distinguer ces deux. Mais vous comprenez que cela, c'est déjà tout le fruit d'une réflexion. Puisqu'il y a une philosophie du mouvement, donc du devenir, et une philosophie de ce qui est. Il faut donc saisir les causes du devenir et les causes de ce qui est. Vous voyez la différence entre le principe et la cause. La cause ajoute au principe quelque chose de particulier. C'est que la cause est toujours quelque chose qui existe. C'est quelque chose qui existe, tandis que le principe n'est pas toujours quelque chose qui existe en dehors de mon intelligence. Le principe peut être premier dans l'ordre de l'intelligibilité. Vous allez tout de suite prendre un exemple. L'axiome. L'axiome premier pour Aristote. Ce qu'on appelle le principe de non-contradiction. Le principe de non-contradiction a un fondement dans la réalité, mais n'existe pas comme principe de contradiction. Il n'existe que dans mon intelligence. C'est la loi. L'axiome, c'est la loi première. La loi fondamentale. réunit la division fondamentale de mon intelligence, c'est l'affirmation et la négation. Et quand cette affirmation et cette négation portent sur ce qui est, j'ai immédiatement le principe de non-contradiction. On ne peut pas affirmer et nier en même temps, sous le même aspect, l'affirmation. On ne peut pas affirmer et nier en même temps, sous le même aspect, quelque chose. La cause, elle exprime un principe réel que seule l'intelligence saisie dévoile. Il faut dévoiler une cause. Une cause, vous ne pouvez jamais la toucher avec votre main. C'est l'intelligence qui saisit la cause, puisque seule l'intelligence saisit le principe. Le sensible ne saisit jamais un principe. Le sensible saisit toujours quelque chose de relatif, jamais quelque chose de premier, donc toujours quelque chose de second. Par définition, le sensible, c'est quelque chose de second. Tandis que seule l'intelligence saisit la cause, mais elle saisit la cause comme un principe réel. Dans l'ordre du devenir, dans l'ordre de ce qui est. L'élément, c'est toujours aussi principe et cause. Donc, la cause implique le principe. Et puis, on peut mettre ici les deux. Mais, comprenez bien que toute cause n'est pas un élément. Qu'est-ce que c'est que l'élément comparativement à un principe ? L'élément, à la différence du principe, c'est quelque chose qui existe sous telle modalité. C'est le pos, c'est là où apparaît le premier pos d'Aristote, le comment. C'est quelque chose de premier, d'indivisible par le fait même. Dans l'ordre du monde physique. Et c'est pour ça que l'élément se prendra du côté de la cause matérielle. On pourrait dire que c'est la première réalisation dans l'ordre physique, dans l'ordre de la cause matérielle, de quelque chose qui existe. Mais attention, là encore, l'intelligence seule saisit l'élément. Je ne touche pas l'élément. Comme élément. Et c'est pour ça que quand vous parlez de l'eau comme l'élément, c'est pas l'eau que je buvais. Je bois un élément. Je gargarise d'un élément. Non, 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 non. L'élément comme tel, c'est l'intelligence qui le saisit. Parce que c'est quelque chose de premier. L'intelligence seule saisit les premiers. Ce que vous touchez, c'est les qualités d'un élément. Et ces qualités me permettent de poser l'élément. Mais ce n'est pas l'élément. L'élément, c'est quelque chose de premier dans l'ordre matériel. Et qui permettra de structurer. C'est pour ça qu'on va voir ici quelque chose de très particulier. Et c'est tout à fait propre à la physique. De découvrir les quatre éléments. Et les quatre éléments, Aristote les reçoit d'Empédocle. Il faut toujours voir, hein, dans les présocratiques, vous savez bien, il faut voir les premiers. C'est Empédocle qui est le premier, parle des quatre racines de notre univers. Et les quatre racines de notre univers sont les quatre éléments. Et Aristote va reprendre ça. Parce que chez Platon, les éléments, vous comprenez, ça n'a aucun intérêt. Il n'y a pas une philosophie des éléments chez Platon. Tandis que chez Aristote, puisqu'il y a une philosophie de la nature, puisqu'il y a une philosophie de la matière, de la cause matérielle, il faut voir comment cette cause matérielle se présente à nous. Et cette cause matérielle se présente à nous à travers les éléments. Les éléments, c'est donc, si vous voulez, la structure de la cause matérielle. La cause matérielle se présente à nous avec cette structure particulière. C'est qu'elle est terre, eau, air, feu. Chose très calée, les quatre éléments. C'est la structure de la cause matérielle. ça te cite tout de suite, hein. Dans le livre de la physique, Marie, ça ne doit pas parler des éléments. Il va parler des éléments dans le dégénérationnel. Alors là, il va parler des éléments. On va construire les éléments. Bon, on est déjà, vous voyez, à un plan du pose. Tandis qu'ici, on cherche les principes, le tiesti. Et les principes et les causes, c'est l'interrogation du tiesti. Ça, je crois que c'est capital de bien distinguer le pose, c'est le comment, du qu'est-ce. Autrement dit, la distinction entre le pourquoi et le comment, pour nous, c'est du pain quotidien, depuis Auguste Comte. Parce que Auguste Comte dit que les pourquoi, c'est la métaphysique, c'est la philosophie, c'est l'enfant qui se pose la question du pourquoi. Et l'homme adulte se pose la question du comment. Alors voyez, les novices qui se posent la question du comment et les novices qui se posent la question du pourquoi. Vous faites la sélection entre les petits moutons et les gros boucs. Le comment, c'est la réalisation. C'est très curieux. C'est très intéressant. Bon. Donc, premier rappel, il y a deux sciences. Oui, bien qu'on est en critique, là. Ça n'a aucun. Ça n'aurait pas de sens de commencer comme ça. Tandis que ça, c'est intéressant. On va regarder, est-ce qu'il y a une philosophie, c'est-à-dire une science, une recherche des causes, des principes, des éléments de notre univers. Or, la marche naturelle, ça aussi est encore seconde affirmation. C'est un aspect très important. Or, la marche naturelle, le béfugé, c'est-à-dire la manière naturelle, c'est d'aller des choses les plus connaissables pour nous et les plus claires pour nous à celles qui sont plus claires en soi et plus connaissables. Petit principe de méthode, c'est de la critique. Aristote aussi a son livre sur la méthode, vous voyez bien, ça c'est de la méthode. C'est une méthode très très élémentaire, prenez, je vous ai déjà dit, le livre de... sur les données révélées du père Gardeil, du grand Gardeil, Ambroise, quand il commence dans sa préface en disant, il y a deux manières d'écrire un livre. De façon claire et superficielle, et d'une manière profonde et obscure. Je choisis la seconde. Ça permet d'être obscur. Et parce que comme ça, on est profond. Alors, Aristote ne dit pas ça. Mais c'est intéressant de voir ce péfugé, n'est-ce pas, la démarche naturelle. La démarche naturelle, il faudrait dire la démarche naturelle, plus que la marche naturelle. C'est la démarche naturelle, c'est une méthode à béfuguer. C'est d'aller, alors ça il faut bien tenir ça, c'est d'aller des choses les plus connaissables pour nous. C'est ça, c'est l'odos, c'est la méthode, méthodos, la méthode odos. Donc c'est la foi, c'est d'aller des choses les plus connaissables pour nous. Et mine. Et les plus clairs, saphestérone, d'aller les plus connaissables pour nous et les plus clairs pour nous à celles qui sont plus claires en soi et plus connaissables. C'est très intéressant, vous voyez ça. Parce que ça nous fait comprendre pourquoi Aristote commence sa philosophie spéculative par la physique. C'est les connaissances les plus claires. Le plus connaissable, l'eau. Vous savez bien ce que c'est que l'eau. Vous savez ce que c'est. Je me souviens des Coninques venant à Fribourg une année sabbatique et me disant quand je viens visiter les universités, il s'amusait parce qu'il retournait dans son pays, la Belgique, quand je reviens visiter les universités en Europe, on me des choses et plus connaissables pour nous et les plus claires pour nous à celles qui sont les plus claires en soi et les plus connaissables. Ça va très loin comme méthode. Bien se rappeler ça. Ça, c'est le réalisme d'Aristote. Platon ne dit pas ça. Comprenez tout ce que ça fait comme différence avec Platon. Pour Platon, c'est partir des plus connaissables en soi, les formes en soi, la réminiscence. Car ce ne sont pas les mêmes choses qui sont connaissables pour nous, et absolument. Alors vous avez ici l'opposition entre Hémine et Aplos. Aplos, ça se traduit par simplicitaire. C'est le simplicitaire de saint Thomas Aplos. Absolument, pris de façon absolue. C'est le simplicitaire. Donc, ce qui est pris de façon absolue et ce qui est pris relativement à nous. Petite distinction très importante que vous retrouvez tout de suite dans la somme de saint Thomas à propos de la connaissance de Dieu. Distinguons ce qui est connaissable pour nous et ce qui est connaissable en soi. Mais vous voyez bien que cette distinction est une distinction critique. Vous pouvez pas faire ça dans le berceau. Dans le berceau, vous ne connaissez que ce qui est connaissable pour vous. Et vous n'avez jamais posé le problème de l'aplos. Il faut déjà avoir fait sa philosophie. Il faut avoir déjà découvert un principe pour parler de l'aplos. Parce que connaître un principe, c'est connaître quelque chose d'une façon absolue. Aplos. Alors, dès que je connais un principe, je peux faire tout de suite la distinction entre l'expérience et la saisie du principe. Mais c'est pas si commun. Faire cette distinction, c'est éviter d'être positiviste. Dès que vous avez distingué entre ce qui est le plus connaissable pour nous, Hémine, et ce qui est le plus connaissable en soi, c'est distinguer l'expérience du principe. Je ne dis pas de la loi, du principe. Mais de la cause, par le fait même. C'est pourquoi il faut procéder ainsi. Partir des choses moins claires en soi, plus claires pour nous, pour aller vers les choses plus claires en soi et plus connaissables. Voilà la démarche. Il faut procéder ainsi. Ça, c'est la démarche. Il n'y a pas moyen autrement. Et ceci, c'est vrai pour toute recherche. Dès que vous faites un petit travail, prenez ces principes d'Aristote. Partir des choses moins claires en soi et plus claires pour nous, pour aller vers les choses plus claires en soi et plus connaissables. Vous voyez, comme c'est curieux, la petite parenté avec Descartes, la clarté. Mais c'est pas, ce ne sera pas utilisé de la même façon. Or, ce qui pour nous est d'abord manifeste et clair, ce sont les réalités les plus mêlées. Alors, on traduit les ensembles les plus mêlés, ça c'est tout à fait... Ça va pas du tout avec Aristote. Les ensembles, vous voyez, c'est théorie des ensembles. C'est ce qui est le plus clair. Non, c'est les réalités les plus complexes. Parce que vous connaissez immédiatement les mixtes. Votre corps. La première idée que vous connaissez, c'est votre corps. Première chose que vous avez touchée, c'est votre peau. Premier contact, c'est votre peau. Ou la peau du voisin qui était à côté. C'est ça le gosse. Et nous sommes tout le temps comme ça. Nous connaissons d'abord les réalités les plus complexes. C'est seulement ensuite que de cette indistinction, cette complexité, les éléments et les principes se dégagent et se font connaître par voie d'analyse. C'est par l'analyse, c'est-à-dire par l'induction, que nous connaissons ces principes et ces causes. Mais ça c'est Aristote, bon père de famille qui éduque. Les petits enfants, regardez d'abord les choses complexes. Touchez votre corps, voyez la complexité de ça. La peau, c'est une complexité extraordinaire. C'est pourquoi il faut aller des choses générales aux particulières. Car le tout est plus connaissable selon la sensation. Et le général est une sorte de tout. Le général, c'est-à-dire le universel. Le tout holos. de cercle, tandis que la définition du cercle distingue par analyse les parties propres. Là, c'est... On part d'un nom confus à la définition. La définition étant déjà un certain résultat. Vous ne partez pas d'une définition. Vous partez d'un tout confus. C'est comme ça notre vie intellectuelle. Et les enfants appellent d'abord tous les hommes papa. Et les mères maman. Et toutes les femmes maman. C'est seulement ensuite qu'ils les distinguent les uns des autres. Constatation très simple d'Aristote comme père de famille. Il a regardé ça. Tiens. Il dit ça. C'est que d'abord, dès qu'un homme vient papa, dès qu'une femme maman, et puis après, on distingue. On arrive à quelque chose de particulier. C'est très. Vous voyez? Et c'est de là que la scolastique dira que le tout confus est premier. Le tout confus. Le tout quand c'est dans le brouillard, quoi. Vous voyagez dans le brouillard. Vous voyez un tout confus. Puis petit à petit, vous approchez, vous avez posé un camion, une voiture, une maison, un tout confus. Ou un arbre. C'est comme ça que l'aveugle guéri par Jésus a commencé de voir. Il a d'abord vu un tout confus, vous voyez. Puis petit à petit, il a distingué. La diaphora, la distinction se fait petit à petit. Donc, question de méthode, rappelée par Aristote au point de départ, c'est intéressant. Alors, ensuite, il faut nécessairement qu'il y ait soit un seul, soit plusieurs principes. Et s'il y en a un, qu'il soit ou immobile, comme le disent Parménide et Mélissos, ou en mouvement, selon l'opinion des physiciens, dont certains affirment que le premier principe, c'est l'air, d'autres, l'eau. S'il y en a plusieurs, ils doivent être limités ou illimités. S'ils sont limités et en nombre supérieur à un, ils doivent être ou deux, ou trois, ou quatre, ou un autre nombre quelconque. Et s'ils sont illimités, ou bien, selon la doctrine de Démocrite, ils auront unité générique, mais seront différents de figure et de forme, ou bien encore opposés. C'est la même question qui se pose, que se posent ceux qui cherchent le nombre des êtres. Car c'est au sujet des composants qu'ils commencent leur recherche, en se demandant s'il y a un composant unique ou plusieurs, ou à supposer qu'ils sont multiples, s'ils sont limités ou illimités, cela revient bien à rechercher si le principe est l'élément.